L'actualité francophone, la Belgique, nombreuses cérémonies du souvenir un an après les attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts et des centaines de blessés. L'Afrique et la gestion par l'Église catholique des prêtres mis en cause pour pédophilie, des prêtres accusés en Europe ont été mutés en Afrique. En France, premier débat télévisé entre les cinq principaux candidats à la présidentielle, la Suisse et le gouvernement qui intervient dans le dossier des tarifs médicaux. Au Canada, un universitaire provoque un scandale en dénonçant le comportement de la société québécoise pendant la récente tempête de neige. D'abord, les personnalités de la semaine au Canada. Benoît Audet, vous avez choisi le ministre fédéral des Finances.
Oui, Bill Morneau, il a déposé son deuxième budget depuis l'élection du gouvernement de Justin Trudeau. C'est un budget écrit à l'encre rouge. On prévoit un déficit de 28 milliards de dollars, soit environ 20 milliards d'euros. Le budget fédéral ne contient pas beaucoup de nouvelles mesures et on ne sait pas non plus quand on reviendra à l'équilibre budgétaire. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement mise sur l'innovation pour donner un nouveau souffle à l'économie canadienne qui est très dépendante des ressources naturelles.
En France, l'homme de la semaine, Bruno Leroux, il a démissionné mardi de son poste de ministre de l'Intérieur après 106 jours seulement en fonction, emporté par la polémique sur l'emploi de ses filles comme assistantes parlementaires depuis leur âge de 15 et 16 ans. 24 CDD de 2009 à 2016 pour des revenus de quelque 55 000 euros. Après l'affaire Fillon qui a embauché son épouse et ses enfants, encore une affaire de privilèges familiaux. Là, c'est un homme de gauche qui est en cause, Bruno Leroux, élu de Seine-Saint-Denis, département où l'exclusion sociale fait des ravages. Bruno Leroux, un fidèle de François Hollande, mais le président ne lui a pas laissé le choix, il a exigé son départ. En Belgique, Sophie Léonard, la personnalité de la semaine, Dirk Vrimoot, un astronaute belge.
Et pas n'importe quel astronaute, le premier belge à aller dans l'espace. Cette semaine, cela fait 25 ans. C'était le 24 mars 1992. Dirk Vrimoot avait alors 51 ans. Il s'envolait dans l'espace à bord d'Atlantis avec 6 astronautes américains. 20 ans plus tard, il se souvient de cette mission de 9 jours qui a changé sa vie, 143 fois le tour de la Terre. Et une image restera gravée à jamais dans sa tête, celle de la Terre vue de l'espace.
En Suisse, Pierre Chauffat, vous revenez sur le Valaisan Oskar Freitzinger.
Oui, car les électeurs ont bel et bien éjecté du gouvernement de ce canton alpin le célèbre représentant de la droite conservatrice. Et l'homme, habitué des succès, n'a pas voulu subir publiquement l'affront de ce désaveu. Conscient du risque après le coup de semonce du premier tour, il est resté cloîtré chez lui lors du dépouillement dimanche et n'a répondu à aucun journaliste. Il s'est contenté de publier jeudi un message vidéo de remerciement à ses électeurs, un message où Oskar Freisinger laisse entendre qu'il pourrait tourner la page de la politique. À ce stade, il est toujours vice-président de l'UDC au plan national.
La personnalité africaine de la semaine, Anne Cantner, c'est le président mauritanien.
Mohamed Ould Abdelaziz, désavoué par sa majorité au Sénat qui a rejeté son projet de réforme de la Constitution. Mais l'ancien général de 60 ans n'a pas du tout l'intention de jouer l'apaisement. Pas question de revoir le projet, pas question de dialoguer avec l'opposition. Le président mauritanien tente un passage en force. Pour contourner les sénateurs, il compte organiser rapidement un référendum sur la question. Contraire à la loi, selon les opposants, la bataille juridique est en cours.
Cette semaine, l'actualité en Belgique, marquée par les cérémonies d'hommage, Sophie Léonard, aux victimes des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016.
C'était il y a un an, la Belgique était frappée par les attentats. Le 22 mars, peu avant 8 heures, deux terroristes se font exploser à l'aéroport de Bruxelles National. Une heure plus tard, un autre terroriste sème la mort dans la station de métro Malbec. 32 personnes ont perdu la vie, des centaines ont été blessées. En leur mémoire, les familles, les services de secours, le roi, la reine étaient présents à Bruxelles. Présent également Brieux de Meus, le directeur général des transports de Bruxelles. Écoutez son sentiment après la matinée d'hommage.
Beaucoup d'émotions, beaucoup de dignité aussi que j'ai pu ressentir. C'est très impressionnant. Tout le monde est venu pour se souvenir, mais tout le monde l'a fait avec cette magnifique dignité humaine qui est très impressionnante.
Vous avez pu vous entretenir avec un certain nombre de victimes ou de familles ?
J'avais déjà pu le faire dans le passé. Aujourd'hui, c'était peut-être un peu plus compliqué. Il y avait le roi qui s'adressait à tout le monde. Il fallait laisser les choses se faire. Mais on sent encore énormément de souffrance. On sent encore le besoin de l'exprimer. On sent encore quand même le poids de l'attentat.
Le poids de l'attentat, toujours bien présent donc, et sans doute à jamais. La journée de mercredi s'est terminée par une veillée. On notera les paroles du roi Philippe. Osons la tendresse en cette journée de recueillement et de souvenirs.
La Suisse, Pierre Anchoffal, le gouvernement a dû intervenir cette semaine dans la jungle des tarifs médicaux.
C'est vrai, il a dû, car les partenaires du secteur de la santé ont été incapables de se mettre d'accord au bout de 7 ans de négociations. Dans le modèle libéral helvétique, ce sont en effet les médecins, les hôpitaux et les assureurs maladie qui sont chargés d'élaborer la grille tarifaire pour les prestations médicales. Ils avaient ainsi conçu le TARMED, mais ont buté sur leurs intérêts divergents quand il a fallu le mettre à jour pour l'adapter aux réalités de la médecine d'aujourd'hui.
Et Pierre Anchoffal, l'opération se solde par de potentielles économies.
Exactement, 700 millions de francs suisses environ sur les 30 milliards à charge de l'assurance maladie obligatoire, même si le but n'était pas a priori d'économiser. C'est juste que les progrès de la médecine ont permis d'être plus efficaces, comme l'explique le ministre de la Santé, Alain Berset.
Il y a des domaines où les opérations ont été réduites par 3 dans le temps, parce que la technique a changé, parce qu'on peut le faire au laser, mais la rémunération est restée la même. Il n'y a pas d'autres domaines dans lesquels on aurait vu une rémunération horaire triplée. Donc on a dû l'adapter, ça n'a pas d'effet négatif pour les patients, au contraire, mais ça a un effet positif pour les payeurs de primes, parce qu'on attend naturellement avec cette évolution un effet de frein sur les primes maladies.
Un effet modérateur bienvenu, puisque si l'assurance maladie est obligatoire en Suisse, elle ne bénéficie pas d'un financement solidaire dépendant du revenu. Et les primes payées par chaque habitant sont calculées chaque année en fonction des coûts réels de la santé. La correction apportée par le gouvernement sur ces tarifs devrait donc permettre de modérer un peu la hausse continuelle des primes ces prochaines années.
En France, le grand moment de la semaine, lundi soir, le débat télévisé entre les 5 principaux candidats à l'élection présidentielle. 10 millions de téléspectateurs, 3h30 de débat. Au cours de la première heure, discussion calme, chacun développe son programme, sans grand éclat, par exemple, sur l'apprentissage. Et puis soudain, la tension monte quand on aborde les thèmes de la sécurité, de l'immigration, puis la laïcité et l'islam. Marine Le Pen a souvent été prise pour cible, notamment quand Benoît Hamon l'a accusé d'être, je cite, « drogué aux pages faits divers » ou quand Jean-Luc Mélenchon lui a reproché d'agiter des fantasmes à tout propos. « Je veux arrêter l'immigration, c'est clair, j'assume tout à fait mon propos », acclamait la candidate de l'extrême droite. Emmanuel Macron, plutôt à l'aise, c'était sa première confrontation avec ses rivaux, a dû répondre à Benoît Hamon qui mettait en cause son indépendance à l'égard de ses nombreux donateurs de campagne. Au chapitre économique, François Fillon a attaqué Marine Le Pen sur un des points phares de son programme, la dirigeante du Front National, lui a répondu vertement. On écoute cet échange.
Le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Madame Le Pen avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Avec une inflation galopante, toutes les mesures que vous venez de proposer n'auront plus aucune efficacité en termes d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc vous êtes en train d'entraîner le pays vers un véritable chaos économique et social et il faut que les Français le sachent.
Partage Fillon, totalement. Ça s'appelle le projet peur.
Non, c'est la réalité.
Ça a été utilisé avant le Brexit, Donald Trump. Non.
Selon la presse, ce débat n'a donné lieu à aucune surprise, ni aucun faux pas majeur. Débat dense, sérieux, pédagogique, mais non décisif. Au Canada, Benoît Audet, la tempête de neige de la semaine dernière continue de soulever des vagues au Québec. Cette fois-ci, c'est un professeur d'une prestigieuse université anglophone de Montréal qui s'est retrouvé dans l'embarras.
Oui, c'est le professeur Andrew Potter, le directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill. Il a publié un texte dans une revue anglophone, Maclean's, dans lequel il affirme que la tempête de neige du 14 mars a démontré un malaise au sein de la société québécoise. Il disait même qu'il y avait un manque flagrant de solidarité entre les Québécois en s'appuyant sur des exemples boiteux. Je vous rappelle qu'au cours de cette tempête, 300 automobilistes se sont retrouvés coincés toute une nuit sur une autoroute de Montréal.
Et ce texte, Benoît, a fait vivement réagir au Québec.
Oui, toute la classe politique a condamné les propos de l'auteur, à commencer par le premier ministre Philippe Couillard. L'Université McGill a aussi condamné les propos de son professeur. Finalement, la pression est devenue tellement forte qu'Andrew Potter a démissionné de la direction de l'Institut d'études canadiennes. Il conserve toutefois ses fonctions académiques à l'université.
Benoît, c'est pas la première fois qu'un texte de ce genre provoque des controverses au Québec.
Non, la revue Maclean's avait publié un article il y a quelques années dans lequel on disait que le Québec était la province la plus corrompue au Canada. Ce texte avait aussi fait réagir et entraîner l'adoption d'une motion unanime de l'Assemblée nationale du Québec pour le dénoncer. Cette fois-ci, pas de motion, mais la démission de l'auteur de l'article.
En Afrique, Anne Cantner, cette semaine a été marquée par une enquête qui a fait beaucoup de bruit. Elle concerne les abus sexuels commis par des prêtres français et couverts par l'Église. L'Église qui s'est contentée de muter les responsables sur un autre continent.
Plus de 90 prêtres impliqués dans des affaires de pédophilie ont été déplacés, exfiltrés vers d'autres paroisses en France, mais surtout à l'étranger. L'Afrique fait partie des destinations privilégiées. Contrairement à ce qu'affirme l'Église, il ne s'agit pas de vieilles pratiques n'ayant plus cours aujourd'hui. En 2004, le père Robert, accusé d'attouchement par plusieurs femmes, est envoyé en Guinée. L'Église parle d'une seconde chance, mais pour les journalistes qui ont révélé le scandale, il s'agit tout simplement d'une entreprise de couverture dont l'ampleur serait largement sous-estimée.
D'autant plus que le système fonctionne dans les deux sens.
Oui, l'enquête de Mediapart, de Cache Investigation et de WeReport pointe du doigt, par exemple, la communauté des Frères de Saint-Jean. Elle est très influente dans plusieurs pays africains, en particulier au Cameroun. Les frères y possèdent plusieurs monastères, l'un des plus grands collèges de la capitale. Mais le prieuré qu'ils avaient fondé a fermé d'un coup il y a 3 ans, sans explication précise. Les journalistes ont pourtant retrouvé des témoignages accablants d'agressions sexuelles contre des adolescents. Cette communauté est également mise en cause en Côte d'Ivoire et les exemples ne manquent pas en dehors de cette confrérie. On en trouve au Sénégal, au Maroc, au Burkina Faso et en Guinée. La Guinée quittée précipitamment par le frère Albert. Il était alors accusé d'actes pédophiles sur des joueurs du club de foot dont il était président.
C'était l'actualité francophone. À la semaine prochaine, notre site lesmediafrancophones.org.